Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
On a un petit peu de retard, il est 8h32.
Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Fabrice Le Restif. Il est secrétaire général FO d'Ille-et-Vilaine et il est venu spécialement de Rennes. Il a bravé les bouchons pour être avec nous ce matin en direct. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour. Et c'est moi qui vous remercie de votre invitation.
Alors, on va parler sans surprise de la journée de mouvement. Demain, un mouvement qui s'annonce important contre la réforme des retraites. On a l'impression que ça s'intensifie, que la colère monte peu à peu. Alors, on a vu également ces propos de Madame Borne, la Première ministre, qui a dit que c'était pas négociable pour les 64 ans, qu'elle ne bougerait pas sur l'âge, qu'elle resterait inflexible. Et à côté de ça, on voit également à l'Assemblée nationale une forme de grande colère, en particulier de la part de la NUPES, qui a déposé pas moins de 7000 amendements qui vont commencer à être examinés aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, c'est le début d'une grande lutte au niveau français, enfin au niveau des Français aujourd'hui contre cette réforme des retraites ?
Écoutez, moi, je sens une très grande colère qui monte. Et malgré le déluge de propagande gouvernementale, il y avait encore cette histoire du mail de Guérini qui a envoyé à tous les agents de la fonction publique, y compris par le site des impôts. Il le conteste, mais c'est quand même bien ça, la réalité, pour dire mais non, il n'y a aucun souci sur ces questions.
La CNIL a été saisie d'ailleurs.
Tout à fait, par Force Ouvrière en l'occurrence, et pas seulement. Donc, on les sent fébriles, on les sent inquiets, parce que ça leur remonte les informations, c'est que... Quoi qu'ils fassent, y compris d'ailleurs sur la question du blocage, et j'y reviendrai tout à l'heure, du blocage économique, les Français considèrent que l'enjeu est là et que ça pourrait le mieux. Et c'est pas tous les quatre matins qu'on a cet assentiment, cette force derrière nous. Alors, je le dis très clairement, moi je suis un syndicaliste. Donc c'est sur le terrain social que j'espère que nous gagnerons. Et je pense que c'est sur ce terrain-là. Après, ce que feront les députés, l'Assemblée nationale, avec le 47-1, le 49-3 éventuel, les accords des uns et des autres, ils feront leur boulot. Mais moi, ce sur quoi je compte, c'est comme toujours dans le mouvement social, de tout temps et en tout lieu, c'est sur la force ouvrière, entre guillemets, en tout cas la force des travailleurs, des jeunes, l'interprofessionnel, l'intergénérationnel, qui se battent ensemble. Et c'est là qui est véritablement mon espoir.
Alors, on l'a vu lors du premier mouvement, il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, une forte mobilisation, une mobilisation qui était plus ou moins prévue, mais peut-être pas forcément attendue. Et là, on a vu tout le monde dans la rue, finalement, des gens qui n'avaient pas l'habitude de descendre manifester, des retraités parfois, qui s'inquiètent aussi pour le régime de retraite de leurs enfants, de leurs petits-enfants parfois. Est-ce que pour vous, c'est là aussi le début d'un changement ?
Moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est la force, bien sûr, des cortèges, mais des grèves, des taux de grévistes. Je le redis, pour moi, enfin, je le dis, ce ne sera pas seulement par des manifestations, fussent-elles très importantes, qu'on arrivera à les bloquer. Ça, ils peuvent l'encaisser, quelques manifestations, surtout, elles sont de quinzaine en quinzaine. C'est vraiment la question de la grève. Et là, effectivement, on a vu des gens qui faisaient rarement grève, encore moins manifester, qui sont venus. Et puis, c'est cet aspect qui me semble extrêmement important. Moi, dans le cortège Force Ouvrière, celui que j'ai bien maîtrisé, à Rennes, plus de 2500 personnes, rien que dans le cortège Force Ouvrière, sans parler de ceux qui étaient dans les cortèges professionnels, c'est considérable. Et je dirais que le plus jeune avait 15 ans, à presque 16 ans, on va dire, et plus ancien, 84 ans. Et je trouve ça extraordinaire. Souvent, l'intergénérationnel, c'est pas si simple, sauf dans l'intrafamille, bien évidemment. Mais là, il y a cette discussion qui peut se mener. Des anciens qui apportent leur expérience et puis des jeunes qui apportent leur fougue. Ben ça, effectivement, c'est peut-être le début de quelque chose.
Alors, on avait prévu, en tout cas, les journalistes et commentateurs, on disait, voilà, on a un mouvement qui s'initie un petit peu à la manière, même si le contexte est très différent, de 1995, puisque c'est la référence aujourd'hui. On a le sentiment, là aussi, que le mouvement s'est mis en marche, si vous me permettez, sans jeu de mots, s'est mis en marche et que effectivement on pourrait peut-être arriver à un mouvement aussi important que 1995. Et là, on va parler du blocage, puisque on parle de blocage du pays, blocage économique, alors avec des grandes colères du gouvernement et de plusieurs députés qui se sont exprimés, ou membres du gouvernement qui se sont exprimés en disant on ne bloque pas le pays. Est-ce que pour vous c'est essentiel d'être obligé de bloquer le pays pour se faire entendre.
Ben écoutez, il y a eu, comme il s'appuie dessus d'ailleurs, pratiquement 3 mois de pseudo-concertation bidon, à la noix, je le dis franchement, je vais utiliser les mots. C'est-à-dire que, y compris d'ailleurs, le président de la CGC, je ne vais pas prendre mon syndicat, qui n'est pas un révolutionnaire, expliquait que parfois les négociations, il y avait les numéros 1 des organisations syndicales. Est-ce que Mme Borne était là? Non. Le ministre du Travail? Non. Un haut fonctionnaire? Non. Il nous a expliqué à un moment qu'il y avait des stagiaires qui écoutaient, qui disaient bah, « je vais juste prendre note ». Mais c'est du foutage de gueule. Je vais être très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on a... L'idée, c'est juste de dire « causez, oh, il y a du dialogue, il y a des heures et des heures de dialogue ». Mais on ne bouge pas. Ce sont des gens, et là non plus sans jeu de mots, bornés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent qu'une seule chose, le rapport de force. Donc à un moment, une fois qu'on a épuisé toutes les négociations possibles, ou plutôt, d'ailleurs, ce n'est pas des négos, je sais ce que c'est qu'une négo, c'est juste des discussions. Causer toujours, de toute façon, à la fin, c'est moi qui déciderai.
Une forme d'échange de vues, finalement.
Exactement, voilà. Entre 3 mois qu'on a perdu comme ça, pour dire, finalement, je ne bougerai pas. Et les 65-64 ans, je pouvais l'annoncer dès le départ. Je ne suis pas Mme Irma, mais j'avais dit, ils passeront de 65 à 64 ans, tout simplement. En donnant, faisant mine qu'il y a une avancée. Puis pour le reste, leur objectif, c'était les 64 ans et l'augmentation des durées de cotisation, ce qui est extrêmement important aussi. À partir de là, effectivement, bah, quand on a des gens totalement obtus, totalement sourd, aveugle, bah à un moment, il faut secouer le cocotier et dire on va bloquer le pays. Et je crois qu'en plus, là, il y a un assentiment là-dessus. Et ça pourrait durer moins longtemps que des journées d'action en quinzaine. Et je sors d'un conflit social, comparaison n'est pas raison, chez Forvia, Forestia, un sous-traitant automobile à Bain-sur-Oust, à côté de Redon, 300 salariés, presque 260 en grève, à l'appel de force ouvrière, direction, c'était sur les salaires, hein. Direction, on ne circulait, il n'y a rien à voir. Vous n'aurez rien. Faites grève 3 semaines, 3 mois, bloqué, il n'y aura rien. Et puis, grève jour et nuit. Cette solidarité. J'ai été les soutenir le vendredi. Et là encore, ça ne devait pas bouger. Le soir, les négociations s'engageaient. J'avais dit aussi que j'amenais des sous pour tenir dans la durée, parce que ça passe aussi par des aspects comme ça. Écoutez, les négociations ont duré jusqu'à minuit, vendredi soir, et les 6% ont été accordés. Pour moi, c'est une forme de leçon. Si on veut y aller, il faut y aller fort.
Alors, il y a les forces, ça veut dire bloquer des secteurs. Alors on le voit, hein, déjà on a les prévisions, la SNCF, les trains régionaux qui vont être fortement impactés, particulièrement ici en Bretagne. Est-ce que justement c'est en faisant bloc avec tous les secteurs? Parce qu'on voit aussi que le privé bouge. Jusqu'à présent, on avait beaucoup d'agents du secteur public, hein, qui allaient manifester. Mais là, le privé bouge et pourtant ça coûte une journée de grève.
Ça coûte pour tout le monde d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que là, on voit beaucoup. Moi, lorsque j'ai fait le point dans mon département sur les secteurs, franchement, dans certains secteurs agroalimentaires, dans le commerce, dans le nettoyage, dans la sécurité, entre guillemets, hein, c'est compliqué, effectivement. Donc, quand on a vu ça, et ils essayent de diviser. Mais là, ils ont du mal. De toute façon, c'est pour tout le monde 2 enfermes. Hein. Quand on a 2 enfermes, nous, ce qu'on dit, on fait appel. On fait appel à la mobilisation et à la grève. La grève reconductible, s'il le faut, pour bloquer, pour aller plus vite d'ailleurs, comme je le dis. Et pas aller dans un mouvement qui s'étiolerait et qui serait simplement de dire, ben, on était, par exemple, 25 000 à Rennes, fois 30 000, puis la prochaine fois 35 000, jusqu'à ce qu'on soit plus que 20 000, on dit, ah, la catastrophe, il faut rentrer chez soi. Donc attention à ça aussi.
Voilà, donc un mouvement qui peut s'inscrire dans la durée quand même, en tout cas dans la reconduction.
Absolument, c'est vraiment cette question-là. Alors, c'est pas Fabrice Florestif qui claque des doigts, on n'appuie pas sur un bouton, on le sait bien. Nous, on dit, il faut mettre partout. Mon expression demain, elle sera de 2 natures. Premièrement, discuter partout, dans vos bois, dans vos entreprises. On m'a demandé d'aller dans certains endroits, mais c'est surtout aux travailleurs de décider comment on continue, comment on fait. C'est à eux de décider, d'abord, mais qu'on leur donne l'impulsion. Et puis, un deuxième message, là, à l'intention de l'intersyndicale nationale. Il y a eu un coup de bambou un peu. Je me vois, moi, sortir de la manifestation du 19. Jamais je n'ai eu autant de SMS, de messages téléphoniques pour dire « C'était extraordinaire, on a revu des copains, on a eu la force, il y avait des jeunes, il y avait des anciens. Comment on continue ?» Ils vont forcément appeler, on était dans le 19, dès le 24, le mardi 24, ou au pire, le jeudi 26. Et là, le coup du 31, 12 jours, bon.
C'est trop long pour vous.
C'est trop long. Alors, bien sûr, bon, là, maintenant, on est la veille, ben voilà. Mais si le 31, l'intersyndicale nationale repartait vers quelque chose, alors que les vacances scolaires arrivent, on le veuille ou non, ça va impacter. La première zone, c'est pas la nôtre, mais la zone A, c'est la fin de cette semaine, et la nôtre, fin de la semaine prochaine. Voilà, si c'était juste pour des journées d'action qu'on appelle saute-mouton, à un moment, ce n'est pas la hauteur des enjeux.
Alors, les enjeux, ils sont importants. On l'a bien compris, hein, cette réforme des retraites qui ne passe pas dans l'opinion publique. Et on sent, alors, pour la première fois, justement, l'opinion publique, alors c'est toujours embêtant, hein, quand on n'a pas de train, qu'on doit se rendre quelque part, c'est un peu rageant, on râle, évidemment, le français est râleur. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une forme de compréhension lorsqu'on regarde un petit peu les journaux de télévision, qu'on écoute la radio avec les interviews. Beaucoup de Français disent, ben voilà, ça nous embête, mais finalement, on la comprend, cette grève.
Et c'est ça qui inquiète le gouvernement. Ils vont bien sûr prendre tous les termes, alors je les connais par cœur, la France en otage, le blocage, bordélisation maintenant, hein, je crois que c'était le terme de Darmanin, ainsi de suite. Enfin, c'est joyeux de riz. C'est eux qui mettent le bazar hein, en France. Ils ajoutent de la peine à la peine, on a déjà bien assez de soucis comme ça, les problèmes d'inflation, de pouvoir d'achat, ainsi de suite. Donc ils vont essayer de dramatiser, ainsi de suite, mais ils sont bien obligés de... Il y a eu des sondages, ils font leurs propres sondages d'ailleurs, constater que ça ne marche pas tant que ça. Hein. Mmh. Et parfois, ils utilisent des... Alors, je vois sur Rennes, par exemple, c'est une autre façon de faire, mais ils dramatisent la question de la manifestation sur les incidents, de voir tous les commerçants, disons, barricadez-vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, la dernière manifestation, c'était aussi une manifestation. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des incidents qu'on déplore, qu'on dénonce. Hein, c'est pas la question. Ça ne peut pas être dans l'intérêt du mouvement social. C'est une évidence. Mais n'empêche. Mais à dramatiser, on avait beaucoup de manifestants qui venaient en famille. C'est-à-dire les deux parents en grève et les enfants, l'école était fermée. Beaucoup d'écoles fermées. Évidemment, en faisant, entre guillemets, cette dramatisation, ça peut donner l'idée de « oh là là, manifestation, attention, arrête ». Bon, ce n'est qu'un élément, mais il y a cette dramatisation, mais ça ne fonctionne pas tant que ça, et c'est ça qui les inquiète. C'est pour ça que je les crois inquiets et fébriles, et c'est pour ça qu'il faut appuyer vite et fort pour que ça cesse aussi rapidement. Je ne suis pas de ceux qui disent que ça doit être le blocage pendant 3 mois, 6 mois. Non, ce n'est pas la question.
Fabrice Torestif, vous faisiez allusion à l'instant à l'inflation. On est dans un moment compliqué pour la France, pour les Français qui ont du mal à vivre. Est-ce que, finalement, cette réforme des retraites n'arrive pas à un moment de grand ras-le-bol? Ça va presque au-delà, justement, de la contestation de la réforme. C'est une forme de ras-le-bol généralisé. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose de plausible?
Oui, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a des mouvements, parfois, on se dit « ça va prendre », et ça ne prend pas. Et puis là... C'est cette espèce d'accumulation qui vient. Alors, il y a aussi la situation liée au Covid, avec qui a suscité beaucoup de choses, hein, bien évidemment. Et, bon, les allers-retours, les discours, les injonctions contradictoires, il y a eu tout ça. Le contexte international, la France n'en est pas responsable, le gouvernement.
La guerre en Ukraine, voilà,
qui joue.
Également.
Voilà. Certains qui en ont bien conscience aussi que ça pouvait servir, d'une certaine manière, à certains pour s'enrichir aussi. On le voit. Hein. Et puis, cette conscience aussi. Si, ça apparaît, mais cette colère, c'est pas la crise pour tout le monde. Moi, je n'en vis personne, mais je vois bien que la fortune de Monsieur Bernard Arnault, on dit qu'elle a doublé en 2 ans, c'est pas la crise. Et quelqu'un disait, bah oui, ça fait 179 milliards aujourd'hui, c'est le magazine Forbes, et il disait, c'est comme si tous les jours, il jouait au loto, il gagnait 2 millions d'euros. C'est pas le même monde, mais c'est les mêmes qui vont nous expliquer qu'il y a trop de services publics, qu'on soigne trop, qu'on est des gros feignants qui veulent pas travailler jusqu'à 64 ans, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je parle des dirigeants en général, pas tous. Notez le discours de M. Leclerc, par exemple, qui n'est pas non plus un gauchiste invétéré, qui dit « est-ce bien pertinent ?» Je crois qu'un certain nombre de patrons pourraient dire à M. Macron, et ils sont assez proches de lui, la réforme s'était peut-être justifiée d'un point de vue politique et dogmatique, mais là, si c'est le blocage, il faut arrêter tout de suite.
Et on a des petits patrons, on a des artisans, on pense aux boulangers qui ont beaucoup de mal aujourd'hui avec les prix de l'énergie qui ont explosé, qui parfois ferment, hein. On en voit beaucoup ici en Bretagne, mais dans d'autres régions également, qui parfois viennent battre le pavé aujourd'hui, en tout cas demain, qui n'étaient pas forcément des gens qui descendaient dans la rue.
Ah non, ça c'est certain. Moi j'ai toujours dit, d'ailleurs je m'entends assez bien avec les artisans en général, les auto-entrepreneurs, je ne confonds pas des grands groupes du CAC 40 avec les artisans, qui sont des travailleurs, hein, et des auto-entrepreneurs, ainsi de suite. Là j'ai mon ancien responsable métallo de l'usine Manitou, qui s'est reconverti comme boulanger, et il m'explique toutes ces difficultés-là. Donc il y a aussi cette colère-là, qui cherche un débouché. Alors, le débouché politique, c'est pas mon affaire, entre guillemets. Tout ça aura un sens. Mais qui essaye de reconstruire quelque chose que moi, je continue d'appeler des jours heureux. Réinventons, ouais. C'est pas forcément les mêmes que 45. Mais bon sang, 45, une France en ruine, avec le drame mondial qu'on a vécu, on est capable d'imaginer autre chose. Et la sécurité, ce formidable outil, et ainsi de suite. Le chacun pour tous, d'une certaine manière, on est capable de faire ça et on voudrait réinventer, donner sens. Parce que, et là c'est important, Si on ne va pas vers ça, si c'est la régression sociale à tous les étages, en permanence, à perpétuité, forcément la haine, la rancune vont monter et on sait à qui ça profite. Et ce ne sont pas nos amis.
L'extrême droite, hein, pour la citer en creux. Cette colère, cette envie de refonder une société, est-ce que ça arrive finalement aussi à, j'allais presque dire, pardonnez-moi le terme, il est peut-être mal choisi, mais au bon moment, c'est-à-dire à un moment où la société a envie de changement, aspire à autre chose. Vous parliez du Covid tout à l'heure, il est passé par là aussi. Un sondage récent, alors je ne l'ai pas sous les yeux, donc le chiffre peut être un petit peu imprécis, mais dit en gros que plus de 60% des Français sont prêts à partir plutôt en retraite, quitte à être payé moins cher, mais pour pouvoir vivre. Est-ce que c'est aussi l'aspiration d'un changement, là ?
Alors là aussi, on le sent, on le voit bien avec les jeunes, tous ces jeunes très diplômés, mais qui refusent d'aller dans un certain nombre de boulots. C'est nouveau et ça n'est plus marginal totalement. Je vois la quête de sens. Alors non, c'est jeune, c'est feignant, on peut entendre cette discussion-là, mais je pense qu'ils cherchent du sens. Mais ça me semble logique. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a qu'une vie. Est-ce que la vie, c'est simplement bosser sur un boulot avec un manager, avec des profits, de la rentabilité en permanence, ainsi de suite, où on ne s'épanouit pas, c'est pas la question de s'épanouir, mais on est vraiment stressé, et ainsi de suite. Et puis après, direction l'hôpital, parce que l'espérance de vie en bonne santé, pour certains boulots, c'est pas bien haut, hein, c'est 63, 64 ans. Puis après, le cimetière, ça serait ça. Ben, certains cherchent du sens, y compris donc ces hauts diplômés qui, je vois, essayent de se reconvertir dans tout à fait autre chose, en disant, ah, au niveau de vie, ça sera différent. Mais on cherche autre chose, y compris d'ailleurs en fuyant les villes et ainsi de suite. On a vu ce phénomène-là, qui n'est pas que marginal. Donc c'est une recherche de sens, dans un monde qui en a perdu beaucoup de sens. Hein.
On voit aussi ce qu'on voyait peut-être plus ou moins depuis des années, une forme de solidarité aussi. On l'a vu avec les étudiants, on les a entendus beaucoup sur notre antenne, qui ont du mal à vivre. Hein. Certains dorment sous des tentes à Rennes, hein, d'ailleurs, ou dans leur voiture, pour ceux qui en ont une. On a vu qu'il y avait une solidarité qui se créait. Est-ce que finalement, c'est cette société-là qui est en train d'émerger, une société de la solidarité ?
Alors bien sûr, en face, il y a un système capitaliste impitoyable, qui divise, qui monte les personnes les unes contre les autres, bien évidemment. Et cette solidarité qui monte, elle part du terrain et je la trouve effectivement extraordinaire. Et c'est le boulot. Moi, j'ai toujours estimé que c'était le boulot du syndicat. Avant, il y avait ce qu'on appelait les bourses du travail. On se retrouvait entre sectes en permanence. On est là pendant les manifs, les assemblées générales, les réunions, bien sûr. Mais en permanence, des jeunes, des moins jeunes, des professions très différentes. C'est comme ça que les instituteurs côtoyaient des ouvriers du bâtiment ou des ouvrières de la lingerie ou je sais pas quoi. Enfin bon, ils faisaient du nettoyage et tout ce monde-là parlait, ainsi de suite. Et cette solidarité, elle naît de ça. Déjà, il faut se connaître, il faut se comprendre. Parce que parfois, effectivement, moi aussi, je suis perdu, y compris avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas un adepte de ce genre de choses, mais peu importe.
On a une
société
très compliquée aujourd'hui.
Très compliquée, très compliquée.
Justement, très complexe, on en meurt un peu de cette société complexe.
Oui, voilà, surtout si on ne se parle qu'à soi-même et à ceux qui sont d'accord avec soi-même. Moi, j'aime bien discuter avec des gens, y compris ils ne sont pas d'accord, mais pour avancer, voilà. Et j'essaye vraiment d'être au contact. Donc, avec des jeunes qui ont un monde parfois un peu différent, qui me prennent peut-être parfois pour le vieux contre, mais de temps en temps, ainsi de suite. Mais c'est bien de se confronter à ça. En tout cas, parler, discuter et inventer. Dire il y a autre chose. Sinon, c'est chacun pour soi. Et là, franchement, c'est désespérant.
Alors, sur les retraites, on parle des jeunes, de la jeune génération. On en a eu beaucoup à ce micro également de la matinale. Beaucoup savent qu'ils ne feront pas une carrière, soit par choix, soit parce que voilà, la vie est comme ça, de l'entrée de l'entreprise en apprentissage parfois jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, la jeune génération aspire à autre chose, à découvrir, à avoir des carrières souvent un peu biscornues, permettez-moi le terme, par choix parfois. Est-ce que justement là, le gouvernement ne passe pas à côté d'une réflexion autour du travail finalement, ou de la façon d'aborder le travail aujourd'hui ?
Alors, je pense que la réflexion, c'est pas leur aspect, effectivement, qui marque le plus. Ils réfléchissent pas. Ils sont sur la base du profit. Tout ce qui est fait sur la question du chômage, sur la question des retraites, c'est un aspect comptable. Ils sont comptables là-dessus. Sur d'autres aspects, ils ont, je dirais, donné beaucoup d'argent, au moment y compris du Covid. On a vu des entreprises qui ont eu beaucoup, beaucoup d'argent.
Le fameux quoi qu'il en coûte.
Le fameux quoi qu'il en coûte, y compris d'ailleurs, parfois, pour financer des plans de licenciement. Ensuite, hein, il faut le dire. Là, on trouvait des dizaines de milliards. La planche à billets devait fonctionner, sans doute, sans aucun souci. Et puis là, parce qu'il manquerait peut-être en 2025 12 milliards, là, il n'y a plus rien qui est possible, et ainsi de suite. C'est très dogmatique. Mais la réflexion sur le travail, ça les amènera à une remise en cause, y compris de ce qu'ils sont eux, de ce qu'est la démocratie, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est strictement impossible. Je ne vois pas des gens comme ça être en capacité de réfléchir à ça, au-delà des postures ou des discussions de salon.
Est-ce que vous imaginez demain que la réforme ne passe pas ? Voilà, finalement, le gouvernement recule. Quelles conséquences il faudra en tirer ?
D'abord que l'action collective, pour moi, ça sera un formidable élan, un formidable message. En agissant ensemble, solidairement, justement, on peut faire reculer, y compris ceux qui disent qu'ils semblent avoir tout le pouvoir, et ainsi de suite. Ça me semble extrêmement important. On peut faire des choses. On peut faire des choses ensemble. Ça, c'est le message. Et après, effectivement, il faut qu'il émerge d'autres choses. C'est pas parce qu'on aura fait abandonner cette réforme qu'il n'y aura plus rien à faire. Ça sera une victoire. C'est plus facile de construire quelque chose sur des victoires que sur des défaites. Il faut l'avouer aussi, parce que ça joue sinon sur le moral. Mais j'espère qu'il émergera tout ça, parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de discuter, des banques alimentaires qui ont vu des personnes qu'ils ne voyaient jamais qui discutent. Tout ça ne va pas forcément s'effriter. Il faut le faire durer, il faut le faire vivre. Ça, c'est aussi le boulot, de mon point de vue, du boulot du syndicat, c'est-à-dire d'offrir des perspectives. Lorsque les résistants et ceux qui ont fondé le Conseil national de la résistance, qui étaient dedans, pour après imaginer Jours heureux, il y avait aussi des syndicalistes et ils avaient leur mot à dire pour imaginer une autre société que celle qu'on nous prépare et qu'on nous met en place aujourd'hui.
A contrario, si Elisabeth Borne reste, comme elle le dit, hein, comme elle le disait hier, inflexible et que la réforme passe, qu'est-ce qui peut se passer de votre point de vue ?
Là, évidemment, ça va être un coup de bambou, c'est-à-dire que si cette force énorme, probablement demain, on verra bien, mais le 19, cette force énorme donc, qu'on a décrite tout à l'heure, n'arrive pas à faire céder, forcément, ça veut dire à quoi ça sert, quoi. La résignation. Mais en même temps, la colère qui est toujours là. Et la colère qui peut être mauvaise conseillère sur certains points de vue, parce qu'elle doit, pour moi, se concrétiser après par des revendications, des projets. Hein. Si c'est juste, il faut trouver des boucs émissaires, là encore, j'ai peur que ça soit ceux qui surfent sur le rejet de l'autre, qui disent c'est la faute à ci, c'est la faute aux étrangers, la faute aux immigrés, ainsi de suite, et que ça profite à toutes ces idéologies qui sont, par essence même, le contraire de ce à quoi nous on aspire.
Alors justement, on voit, pour citer par exemple le Rassemblement National, qui ne manifestera pas, en tout cas pas dans les cortèges, dire officiels, si vous me permettez le terme, en tout cas aux côtés des syndicats. Est-ce que pour vous, quand même, là aussi, il y a, je vous laisse libre arbitre de répondre, est-ce qu'il y a un changement, alors peut-être est-il dogmatique au Rassemblement National, de dire voilà, on soutient, ou pour vous, c'est
C'est de la posture politique. On sait d'où ils viennent. On sait d'où vient Marine Le Pen et la famille. Je veux dire, c'est les premiers. On a vu ça, y compris nous, dans notre département. Les premiers qui expliquent que s'ils arrivent au pouvoir, première chose qu'ils feraient, c'est de liquider les organisations syndicales. Peut-être pour revenir à la charte de travail de M. Pétain, qu'ils ont tant admiré à un certain moment. Parce que les organisations syndicales, voilà. Donc je ne me fais aucune illusion. C'est une posture. Ils regardent comme les autres les sondages. Hein. Ce sont des politiciens.
Mais ils peuvent avoir dans leur électorat des gens de droite,
finalement.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Dans leur électorat et dans les sondages, donc y compris ceux qui seraient amenés à voter, ils voient bien le rejet. Donc on va rejeter. Mais derrière ça, il n'y a pas ni le projet d'une autre société avec de la justice sociale, c'est certain, ni la volonté d'aider le mouvement social. C'est donc juste opportuniste.
Alors, opportuniste, le gouvernement ne veut pas bouger aujourd'hui, on le sent. Est-ce que vous avez espoir que quand même, au dernier carat, permettez-moi le terme, il est un peu trivial, mais au dernier carat, il y ait, une ouverture de la part du gouvernement ?
Mais je pense qu'ils jouent là-dessus. On le voit d'ailleurs un peu. Ils ont été mis en défaut sur la question des femmes qui vont être particulièrement, touchées, impactées, négativement en l'occurrence, par la réforme des retraites. Et ça, eux qui font des postures à l'égalité homme-femme et tout ça. Là, ça, c'est la réalité du terrain.
Ils ont promis de bouger.
Voilà, c'est ça. Et je pense qu'ils vont faire ce genre de choses pour donner l'impression que... C'est-à-dire que, c'est un peu comme avec mes salariés de Forvia. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est les 6% d'augmentation. Après, on peut leur dire, oui, on va améliorer ça. Le bruit dans l'atelier sera moins important. Et puis, vous pourrez peut-être avoir un jour de congé de plus. Voilà, on peut. Mais l'idée, vraiment, c'est de gagner sur le fond. On ne veut pas de cette retraite des morts, parce qu'on va aller vers la retraite des morts. Directement, parce que déjà, une partie de la population n'atteint pas les 62 ans. Hein. Vraiment. Et j'en vois, moi, tous les jours. Donc, c'est ça qu'il faut refuser. Et après, on peut discuter, parce que je ne dis pas que le système est parfait. On a des propositions pour l'améliorer. Mais là, l'idée, ce n'était pas de l'améliorer, c'est de faire une régression une nouvelle régression particulièrement mortifère.
Un dernier mot, il nous reste à peine 2 minutes, me dit notre réalisateur qui est intransigeant sur le temps, lui dit inflexible également, mais sur le temps. Est-ce qu'on peut imaginer cette société demain à partir d'un mouvement tel qu'il s'annonce en tout cas? Est-ce que ça peut être une forme de marchepied pour aller vers quelque chose d'autre?
On peut l'espérer. C'est une fois de plus, s'il naît cette solidarité, forcément, il y aura d'autres projets après, d'autres choses qui se créeront. C'est ça qui est extrêmement important, le mouvement ouvrier, y compris au-delà. Moi, je reviens souvent à l'histoire des congés payés. En 1936, c'est le Front populaire. On peut dire, ben voilà, Front populaire, on les laisse faire. Les ouvriers, les ouvrières notamment, c'était une grande première dans les commerces, ainsi de se mettre massivement en grève. Ils font pas tellement manifestation, ils occupent leurs usines, justement, et disent, nous, ce qu'on veut, c'est les 15 jours de congés payés. Et on lâchera pas. Tant mieux si vous le fait. Et il y a eu grève, et il y a eu négociation, et il y a eu les accords de Matignon. Ben c'est ça le mouvement syndical, c'est ça le mouvement ouvrier, c'est ça le mouvement social. C'est ça qui me semble important. Prenons notre avenir en main.
Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Fabrice Le Restif, je rappelle que vous êtes secrétaire général de EFO, Force Ouvrière, en Ille-et-Vilaine. Vous êtes venu ce matin au micro de la matinale pour répondre à nos questions autour de cette réforme des retraites. À n'en pas douter, on se reverra. Merci infiniment d'être venu et je vous souhaite une très belle journée.
À vous aussi.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.